Vous écoutez
RMC.
Très belle matinée à tous. Vous êtes bien sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et le journal de 8h, c'est avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Le gouvernement veut sortir de la crise des retraites. Réunion Emmanuel Macron et Elisabeth Borne à midi. La première ministre veut mettre de l'apaisement à la veille de la 10e journée de mobilisation. Un manifestant toujours entre la vie et la mort ce matin à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres. Et cette question, les secours ont-ils été ralentis par les gendarmes? L'accusation vient des organisateurs. Et puis on va revoir Kylian Mbappé et les Bleus ce soir en Irlande. Deuxième match de qualification à l'Euro 2024.
Et puis à suivre, le sursis du ticket de caisse. Yves Puget du magazine LSA nous dira que c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Et puis Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, qui sera mon invité politique à 8h30. La semaine commence, Quentin, par une réunion de sortie de crise à l'Élysée.
La mobilisation contre la réforme des retraites n'est pourtant pas terminée, mais le gouvernement pense à l'après-crise. Sébastien Krebs du service politique à RMC. Elisabeth Borne veut mettre de l'apaisement. Voilà ce qu'elle dit. Avec un symbole, elle promet de ne plus utiliser, dans certaines conditions, le 49-3.
Oui, en tout cas, c'est l'objectif qu'elle se fixe, ne plus utiliser le 49-3, le passage sans vote, en dehors des textes financiers. En fait, c'est déjà ce qui se passe depuis le mois de juin, puisque la réforme des retraites est elle-même un texte budgétaire. Mais le symbole est brandi, comme vous le disiez, comme preuve de cette volonté d'apaisement avec les oppositions. La première ministre promet une nouvelle méthode, associer les parlementaires en amont de la présentation des textes pour construire des majorités sur des mesures qui auront des résultats concrets pour les Français, dit-elle. Et pour montrer que sa porte est ouverte, Elisabeth Borne lance pour 3 semaines une longue phase de consultation. Premier rendez-vous donc à l'Élysée aujourd'hui avec le président et les piliers de la majorité. Et puis tous les groupes parlementaires et partis, y compris de l'opposition, seront reçus la semaine prochaine.
Elisabeth Borne tend la main aussi aux syndicats qui seront dans la rue demain pour la 10e fois.
Oui, après Emmanuel Macron qui se disait à disposition de l'intersyndicale, Elisabeth Borne, elle leur propose, je cite, de reprendre le travail, et elle a elle-même coché des dates dans son agenda à Matignon pour les recevoir la semaine du 10 avril sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, sur les reconversions. Il faut qu'on trouve le bon chemin, dit la première ministre. Elle veut aussi aborder le sujet de la qualité de vie au travail, mais pas celui de l'âge de la retraite, et c'est là que ça risque de ne pas suffire à recoller les morceaux. La réforme va suivre son parcours jusqu'au Conseil constitutionnel, se contente de dire Elisabeth Borne, avant d'être promulguée par le président de la République.
Et première réaction syndicale ce matin. Simon Dutheil de Solidaires rappelle à Elisabeth Borne que la mobilisation contre les retraites n'est pas terminé.
Nous, on leur dit depuis des mois et avec des millions de personnes, il y a un sujet, c'est les retraites. Et là, on nous dit on peut venir discuter de tout sauf des retraites. Ben, ça nous intéresse pas. C'est pas une main tendue, c'est du storytelling. Ce qu'on voit, c'est un exécutif qui est fébrile, qui veut tourner la page, qui essaye d'aller dans tous les sens en nous disant si, on peut parler de plein de choses. Mais nous, on dit il y a un seul sujet, c'est les retraites. Voilà. Retirez cette loi, on vous le dit, et là, on pourra passer à autre chose. Mais comptez pas sur nous pour trahir la lutte sur les retraites.
La mobilisation continue ce matin, blocage d'un grand parc d'activités logistiques à Nice. Ce matin, une centaine de manifestants sur place. Le dépôt de camions bennes d'Aubervilliers bloqué aussi très tôt ce matin pour empêcher la sortie de camions, des camions réquisitionnés à Paris pour ramasser les 10 000 tonnes, un petit peu moins maintenant, d'ordures qui s'entassent dans la capitale. D'ailleurs, la grève des éboueurs va s'étendre au privé aujourd'hui dans au moins 3 arrondissements supplémentaires. Concernant les accusations de violence policière visant des manifestants, on en parle beaucoup depuis ce week-end, la police des polices fait savoir que 17 enquêtes ont été ouvertes par l'IGPN, donc depuis le 19 janvier. Les forces de l'ordre, qui sont aussi pointées du doigt pour leur brutalité. C'est le mot qui a été employé ce week-end à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres. La mobilisation contre les projets de méga-bassines a tourné aux violents affrontements. Un manifestant est toujours entre la vie et la mort ce matin. 200 manifestants blessés en tout. 4000 grenades ont été utilisées. Les gendarmes assurent que leur réponse était proportionnée. 45 plaintes de gendarmes déposées. Les organisateurs dénoncent pourtant des violences qu'ils disent sidérantes, ainsi que le temps qu'ont mis les secours pour arriver sur place, en accusant les gendarmes d'avoir fait entrave. C'est ce que nous dit Marion Gauthier, qui est sur place pour RMC.
L'émotion fait trembler sa voix lorsque Mathilde évoque l'attente des secours sur une route où des blessés étaient alignés.
C'était hyper difficile à vivre de voir qu'il y avait une personne qui était en danger et qu'on refusait l'accès aux secours.
La manifestante raconte les multiples appels sans effet.
Le SAMU répondait que les gendarmes leur disaient de ne pas venir. Alors qu'à ce moment-là, la situation elle était calme. Il y avait en même temps un camion de pompiers qui arrivait pour évacuer d'autres blessés. Il était bloqué à 100 mètres de là par 2 voitures de gendarmes.
C'était un cauchemar qui a duré beaucoup trop longtemps.
Nicolas Giraud est porte-parole de la Confédération paysanne.
Moi, je me sentais tellement inutile à être avec mon téléphone, avec le colonel qui me faisait croire que les pompiers n'avaient pas été appelés, que On était où il fallait pas être.
Car la préfecture des Deux-Sèvres se défend. Difficulté à localiser les blessés, à les approcher alors que les affrontements se poursuivaient, dit-elle. Ils ont préféré le maintien de l'ordre pour Lionel Brun-Valicon. Il est secrétaire général adjoint de la Ligue des droits de l'homme.
Un dispositif de maintien de l'ordre qui se donne comme unique priorité la sécurisation met en péril la protection des personnes, y compris par les services soignants.
Les organisateurs de la manifestation réfléchissent à porter plainte.
Certainement un effet de la bataille des retraites ce week-end en Ariège. Il y avait une élection législative partielle. Le résultat de l'année dernière avait été invalidé. La députée sortante NUPES arrive en tête. Elle affrontera une dissidente socialiste. Au second tour, le RN passe de 20 à 24% des voix par rapport à la première élection. Et la candidate macroniste dévisse complètement, passant elle de 20 à 10% des voix cette fois. Aujourd'hui, les députés vont parler permis de conduire à l'Assemblée nationale avec une proposition de loi Renaissance pour le rendre plus simple, plus rapide et moins cher, avec une des idées notamment, eh bien, mettre en place une plateforme numérique qui recensera toutes les aides pour payer les 2000 euros que coûte en moyenne le permis de conduire. Martin Juré anime avec Estelle Henry pour RMC.
Une plateforme internet pour recenser l'intégralité des aides financières existantes pour le permis de conduire, c'est l'une des mesures prévues par ce texte. Un outil qui pourrait aider Pierre, 17 ans, qui espère passer l'examen avant l'été.
Il n'y a pas beaucoup de choses mises en place pour le permis, en tout cas j'en entends pas beaucoup parler. Donc moi, si ça peut nous aider, je suis pour quoi.
Parmi les mesures phares de la proposition de loi, le recrutement de contractuels pour pallier le manque d'inspecteurs du permis de conduire, car les délais pour passer l'examen ont explosé ces derniers mois. Inès, 20 ans, en a fait les frais.
J'ai eu un délai d'attente de 6 mois. Les temps d'attente, c'est vraiment ça le problème.
Si le recours aux contractuels pourrait permettre de raccourcir ces délais, la mesure inquiète les professionnels comme Laurent Bangoura, co-gérant d'une auto-école à Nîmes.
C'est pas très clair. On sait pas justement si ces personnes-là seront bien formées ou s'ils auront vraiment la notion pédagogique.
La proposition de loi prévoit aussi d'ouvrir le financement par le compte personnel de formation à tous les types de permis.
C'est pas Versailles ici, il va falloir couper la lumière aujourd'hui dans les gares, les aéroports, les métros aussi. Tous les opérateurs doivent s'engager ce lundi à éteindre d'ici la fin de l'année les publicités lumineuses quand ces lieux sont fermés au public. C'était pas le cas jusque-là, il y avait une exception pour les gares ou les aéroports par exemple. Et ce sera bientôt fini dans un souci évidemment de sobriété énergétique. Enfin, la chasse au record continue pour Kylian Mbappé, le nouveau capitaine des Bleus qui en est à 38 buts en équipe de France. Et il en a marqué deux vendredi dernier contre les Pays-Bas lors de la victoire 4-0. Il vise maintenant les 41 buts de Michel Platini, qui est le quatrième meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France. Écoutez.
C'est à la fois un honneur et c'est à la fois la prochaine cible à battre. C'est comme ça. Je vais continuer mon chemin jusqu'en haut. Mais Michel Platini, c'est une légende absolue. Hein. Que je le dépasse demain ou après-demain, ça restera Michel Platini, une légende incontestée du football français. Mais comme vous l'avez dit et comme je l'ai dit, moi je vais continuer ma route et ça passera par Michel Platini.
Et la France qui jouera ce soir, 20h45 en Irlande, son deuxième match de qualification à l'Euro 2024. Évidemment sur RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet, il est 8h09.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Bon bah finalement le ticket de caisse ne disparaîtra pas au 1er avril comme c'était prévu et c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs. Voilà le parti pris d'Yves Puget du magazine LSA, spécialiste de la consommation. Il sera dans ce studio dans un instant.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h13, excellent réveil, très belle matinée à vous tous sur RMC.
Le parti pris.
Le parti pris, c'est avec vous Yves Puget, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur des rédactions du magazine LSA, le magazine des professionnels de la consommation, et il y a cette nouvelle qui est donc tombée hier.
Oui,
finalement, le 1er avril, eh bien, ce ne sera pas la fin de l'impression systématique du ticket de caisse. C'est repoussé et c'était un de vos combats, Yves Puget.
Oh, un de mes combats, non, c'était oui une difficulté avec l'inflation. C'est toujours le problème d'une loi qui est réfléchie et votée en 2020, la loi climat notamment, gaspillage et pour l'économie circulaire. Et ben, lorsqu'on l'imagine en 2020, on n'imagine pas qu'il y aura de l'inflation. Donc elle est effectivement en décalage par rapport à sa mise en place. Donc elle devait être en vigueur le 1er janvier. Puis le 1er avril, et on a appris hier qu'effectivement, ce serait peut-être ou le 1er août ou le 1er septembre.
Oui, enfin, si ça n'est pas redécalé d'ici là. Parce que, en fait, Yves Puget, pour vous, et ça, vous l'avez mené enquête après enquête, pour les consommateurs, le ticket de caisse reste, dans ce moment où on est à 1 euro près, un des indicateurs très importants quand ils sortent du magasin.
Oui, il y a une étude qui vient de sortir la semaine dernière de Périfem, la Fédération Technique du Commerce, qui démontre que les Français connaissent cette loi. Oui, ils sont pour cette loi, mais comme les Français, comme nous, sont contradictoires, ils sont pour cette loi, mais ils veulent toujours le ticket de caisse.
Mmh.
Donc on a la
en fait, dans l'absolu, ils sont effectivement pour le fait de protéger la planète, de faire des efforts en imprimant moins de papier, mais dans leur quotidien, ça leur reste très utile. D'ailleurs, vous savez quoi, Yves Puget, on va donner tout de suite la parole à Gaël parce qu'il nous a appelé au 3216 pour en témoigner. Bonjour Gaël.
Oui, bonjour.
Gaël, vous vivez dans l'Isère et vous vouliez dire que heureusement qu'il y a des tickets de caisse encore.
Ah oui, bien sûr. Alors moi, je me présente vite fait. Je suis commercial depuis 20 ans pour les restaurants et boulangers pâtissiers. Je passe le bonjour à tout le monde en Isère.
Ouais, salut à tous les habitants de l'Isère qui sont tous sur RMC ce matin.
Et je leur passe tous le bonjour à mes clients. Et j'ai pas un client qui ne regarde pas les tarifs après avoir été livré. Voilà, c'est normal d'ailleurs. Par contre, pour le particulier, c'est quand je fais mes courses, là, c'est moi, je les regarde un peu. Bon, ils partent en caisse et je vois pratiquement personne regarder les tickets. Alors peut-être qu'ils le font chez eux, mais chez eux, c'est trop tard. Parce que quand on regarde... Alors pour ceux qui ne regardent pas les prix quand on fait les courses, bon, à la rigueur, bon, bah, tant mieux pour eux, ils ne regardent pas les prix, ils achètent ce qu'ils ont envie. Pour ceux qui sont un peu rétracts et qui veulent quand même vérifier, oui, il faut regarder. Quand vous regardez un camembert qui est affiché, ou moi, ça m'est arrivé samedi, hein, pas plus tard que samedi, j'ai acheté un pot de compote, affiché à 4,07, c'est passé à 5 euros en caisse. Donc en fait, à chaque fois que je fais les courses, je fais les courses pour la semaine quand mon épouse ne peut pas la faire. Ouais. Je récupère 4, 5 balles, 5 euros en caisse d'accueil parce qu'il y a des...
Il y a systématiquement un décalage, Gaël, entre le prix qui a marqué sur le rayon et celui que vous avez en caisse.
Ouais, très souvent. Alors, je ne veux pas accuser les grandes surfaces automatiquement, mais il y a beaucoup, beaucoup d'oublis. Les oublis des promos. Il y a aussi des balisages. C'est-à-dire qu'on a marqué... Là, pour le pot de compote que j'ai acheté, d'une marque très connue, ils m'ont expliqué que les 4-5 pots de compote n'étaient pas bien mis en rayon, que le prix... qui était en dessous.
Il ne correspondait pas à la compote en rose, quoi, si j'ai bien compris.
Moi, je m'en moque. Je veux dire, moi, j'arrive, je vois un prix qui est derrière, qui est dessous un produit. Voilà, je prends un produit en fonction du prix, quoi.
Oui.
Et c'est souvent, il y a souvent des erreurs.
Si j'ai bien compris et j'essaye de comprendre, Gaël, en fait, ce que vous dites, c'est que quand il y a plusieurs marques, sous l'étiquette moins chère, ils mettent quand même la meilleure marque, peut-être un peu pour vous induire en erreur ou
Il y a ça, il y a des oublis qui sont rentrés dans le surlet. Vous allez prendre, je vous donne un exemple, un paquet de Mars, enfin je ne sais pas de marque, mais un paquet de glace, allez, bar 12, c'est affiché à 3,95, ça passe à 410. Alors tu vas voir à la queue, tu dis mais pourquoi c'est à 410, c'est marqué 300. Ah ouais, mais là c'est pas, il y a toujours quelque chose. Et moi je vous dis je récupère à chaque fois quand je fais mes courses.
Être attentif donc au ticket de caisse, Yves Puget, ce genre de situation que nous raconte Gaël, ça arrive.
Oui, je crois que de mémoire, il y a eu plusieurs études, c'est à peu près 2% d'erreurs, de concordance des prix, comme on dit.
Mais on obtient à chaque fois gain de cause si on prouve que l'étiquetage dans le...
Exactement, mais dans les 2%, il y a aussi des erreurs en faveur du consommateur. Faut pas toujours voir le distributeur, méchant distributeur.
Et là, dans ce cas-là, on se plaint pas à la caisse.
Et là, on va pas se plaindre. Et après, ce que racontait votre auditeur, c'est un décalage, effectivement, ou tout simplement un employé dans le magasin peut ripper un petit peu. Donc, faut pas toujours voir le mal. De temps en temps, il peut y avoir des commerçants, on va dire, qui se trompent volontairement. Donc ça, il faut le condamner. La loi est là pour ça. Mais de temps en temps, c'est aussi 20 000 références alimentaires dans un magasin. Et très rapidement, malheureusement, dans l'urgence, on peut décaler un petit peu infaciles.
La consommation, elle continue à être quand même plombée par l'inflation. Constatez-vous que les consommateurs font très attention et se privent parfois?
Oui, les consommateurs font très attention.
On a entendu qu'il y avait beaucoup moins d'achats de produits d'hygiène, par exemple.
Les volumes sont en baisse, donc le chiffre d'affaires est toujours en hausse avec l'inflation. Si j'ai envie de dire, malheureusement, c'est facile d'avoir de la croissance de chiffre d'affaires pour un commerçant. Mais les volumes sont en baisse, c'est ça qui inquiète. Et surtout, certains rayons sont en baisse. Et on est sur les produits frais, donc les fruits et légumes, la viande, la marée. Donc, ce qui est quand même des produits qui sont chers, mais qui sont utiles parce qu'ils sont sains. Donc ça, c'est inquiétant. Et effectivement, certains rayons d'hygiène beauté,
on entend par exemple que les après-shampoings, ce genre de produits qui ne sont pas absolument 100% nécessaires, eh bien restent sur les rayons qui débordent de ce genre de produits. Un dernier mot, quand enfin les tickets de caisse vont finir par disparaître, est-ce qu'ils vont disparaître pour tous nos achats?
Non, d'abord, il y a 30 milliards de tickets de caisse par an qui sont distribués, c'est 150 000 tonnes de papier, donc oui, le gouvernement, cette loi, elle a sa justification. Après, on va dire que le consommateur peut réclamer son ticket de caisse et il l'aura. Donc quelqu'un qui veut garder son ticket de caisse aura toujours son ticket de caisse. Après, il y aura plusieurs solutions. Il y a la solution tout simplement avec les cartes de fidélité. Donc on peut recevoir des mails, ça aussi c'est du gaspillage, on va dire écologique, mais on peut tout simplement aller sur le site de l'enseigne pour voir son compte et voir effectivement son ticket de caisse. Après, il y a des applications, donc on pourra par exemple scanner un QR code.
Mais je pense toujours à ceux quand même qui sont un peu en dehors de ce genre de logique, d'appli, de smartphone, etc.
Mais ceux-là, ils demanderont le ticket.
Et ils demandent.
Il y aura également des solutions NFC, c'est-à-dire que là, on appuie à flasher le QR code, on passe son portable à côté d'un petit détecteur et immédiatement, le ticket de caisse est téléchargé sur votre portable.
En attendant, en tout cas, le bon vieux ticket de caisse, il reste là, au moins, vous nous le dites, jusqu'en août, voire en septembre. Yves Puget, merci d'être venu dans ce studio. Vous êtes le directeur des rédactions du magazine LSA, le magazine des professionnels de la consommation. 8h19, Arnaud Demanche.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et oui, c'est tous les jours moi, les amis.
Arnaud Demanche est là. Salut Arnaud.
Comment ça va ?
Eh bien, ça va bien.
Ça va bien tout le monde ? Pas trop décalqué avec le passage à l'heure d'été ?
Moins que je n'imaginais.
Ah, parce qu'on a gagné une heure de gouvernement Borne en moins ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche.
Et pas vu comme ça. Je ne l'avais pas vu comme ça.
Il y a un gain à prendre. Dans la nuit de samedi à dimanche, les feux de poubelle nocturnes ont duré une heure de moins. À 2h, il était 3h. C'est donc un week-end où on a perdu 2h au total. Donc une heure la nuit et une heure le matin à essayer de régler l'horloge du four et celle du micro-ondes et l'horloge de la bagnole, etc., etc. Alors, avant toute chose, on va quand même féliciter l'équipe de France qui a collé 4-0 aux Pays-Bas. Vous avez une tenue orange, j'imagine que c'est pour les Pays-Bas, la petite consolation. Un match contrasté, très bien au niveau du jeu, plus compliqué au niveau des coiffures. Antoine Griezmann.
Mais j'ai adoré ce rose.
C'est étonnant.
Oh, j'y ai pensé pour ce matin, finalement je ne l'ai pas fait.
Alors, on a appris dans la presse espagnole, parce que je lis la presse espagnole avant de venir, Pauline, je lis
El Figaro,
Libération, Télé 7 Rouges, que cette couleur était le résultat d'un vote en famille. Antoine Griezmann a déclaré, ça se jouait entre rose et bleu. J'ai 3 filles à la maison, on n'est que 2 garçons. On a voté, le rose a gagné. Antoine, le 49-3, tu pouvais utiliser le 49-3. Papa, tu vas teindre les cheveux en rose. 49-3. Essayez à la maison avec vos enfants, Apolline.
Excellente idée.
J'ai pas envie de faire mes devoirs. 49-3. Maman, je peux encore jouer à la Switch ?
Non. 49-3.
49-3, tu vas aller passer l'aspirateur. J'espère que ça va pas lancer un challenge TikTok chez les enfants du genre teint tes parents. Les enfants vous obligent à vous teindre les cheveux. Amélie Rosic va se pointer avec une crête orange. Manu va arriver avec les cheveux couleur page saumon du Figaro. Apolline avec une superbe crinière rouge pour votre interview de Fabien Roussel cette semaine. Alors, je racontais tout ça à notre direction pour rigoler. Elle a quand même trouvé ça sympa de donner un peu de peps à l'antenne et ils m'ont demandé de lancer un petit sondage Instagram. Souhaitez-vous que Charles Magnien se teigne les cheveux en bleu ou en rose ?
Alors,
je propose qu'on fasse une petite photo, on la poste et puis on donne les résultats demain.
Ce serait bien, oui.
49-3.
Elisabeth Borne a déclaré ce week-end « Nous avons fait ce que les Français attendaient de nous » et ça fait beaucoup réagir.
Évidemment. On se demandait ce que le gouvernement allait faire pour calmer les manifestants. Eh bien, il a décidé de leur faire des doigts d'honneur en dansant sur de la samba. Allez, vous faire tout bien cuire le cul. Ils sont étranges au gouvernement. C'est vraiment le genre à aller chatouiller les testicules d'un gorille avec une plume de paon et ensuite s'étonner que le gorille renverse leur camion. Quoi. Le gouvernement s'abrite d'ailleurs beaucoup derrière l'argument de l'élection. On entend pas mal, hein. On a été élu pour réformer. Alors, déjà, vous avez été élu pour faire barrage à l'extrême droite et en plus, vous lui déroulez le tapis rouge du Festival de Cannes. Et puis, admettons, on les a élus pour réformer. Ok ? Mais pas comme ça, pas en écoutant personne, en refusant tout dialogue, en passant en force et en nous traitant de débiles dans la foulée. C'est comme si t'allais en rendez-vous Tinder, la personne en face a menti sur ses photos, t'attendais Pierre Ninet, tu te retrouves avec Noël Le Graët, tu pensais voir Nabila en face de toi, ta Coluche avec une perruque, cette personne écoute rien de ce que tu dis, te fout une main au cul en disant « Oh non, c'est gras tout ça, t'aimes pas trop le sport, je vois, lâche une caisse et te demande de payer l'addition. » T'étais d'accord pour avoir un rendez-vous ? Mais pas comme ça, pas comme ça.
C'est d'imaginer la scène, Arnaud. La ville bretonne de Landerneau a tenté de battre le record de Schtroumpf ce week-end.
Oui, Charles en parlait tout à l'heure. Alors, en ces temps troublés, ça fait du bien de voir qu'en France, il y a des rassemblements où on voit des milliers d'hommes en bleu sans que ça vire à l'affrontement entre manifestants et forces.
C'est vrai.
Heureusement, pardon. Non, mais c'est joli, là. La photo, elle est sympa si vous la voyez sur RMC Story. Alors, je vais vous dire un truc que j'ai pas beaucoup dit dans ma vie. Mais là, je suis jaloux du physique d'Éric Zemmour. Si j'étais Éric Zemmour, je m'amuserais beaucoup à aller dans un truc comme ça. 20 ans que tout le monde me dit que je ressemble à Gargamel, ben, j'irais à Landerneau, je me mettrais une grande robe noire et je courrais derrière tous les schtroumpfs en disant « Je vous attraperai, bande de misérables nabos bleus !» Je m'éclaterais. Pourquoi il le fait pas ? C'est une belle occasion de s'amuser. Il y a eu 2600 schtroumpfs, mais hélas, ça n'a pas été suffisant pour battre le record détenu par la ville allemande de Lauschringen, qui a réuni 2762 schtroumpfs.
Exemple, pour que tous les habitants d'une ville se déguisent en schtroumpf, c'est effectivement qu'ils ont consommé quelques champignons. Hein. voilà. On n'a pas battu le record. Par contre, on en a d'autres. Et c'est l'occasion d'un petit quiz.
Qu'est-ce qu'on a comme record?
Quel record la France a-t-elle battu? Alors, le gagnant remporte une teinture rose fluo faite par les enfants d'Antoine Griezmann. Vous voulez, vous prenez?
Je veux.
Banco. Main sur les champignons, les schtroumpfs. C'est parti. Est-ce que ce record est français? Top. Plus grand nombre de noix cassées avec ses fesses en une minute.
Vrai? Avec ses fesses? Mais non. Faux.
Si, il est vrai, il est français, c'est 58 noix en une minute. Quoi? 58 noix à la minute. Crachat de noyaux de cerise le plus loin.
Oh bah ça, on sait.
Non, il n'est pas français, il est américain. 33-62.
C'était beau comme record.
Plus grand nombre de 49-3.
Ah bah, français.
Vrai, français rocard. Plus grand nombre de kilomètres à la nage dans des déchets. C'est vrai, il est français, 626 km, il s'est entraîné dans la Seine, je pense. Plus grande collection de cravates colorées pour faire des chroniques économiques.
Manu le Chip.
Plus grand nombre de pulls portés en même temps.
Ça existe ce record?
Ça existe.
C'est pas français.
C'est américain.
Ah ouais, c'est ça, faut être un peu fêlé quand même.
Des 19 degrés de chauffage. Plus grand nombre de jonglages avec des tronçonneuses allumées.
Polonais.
Non, c'est pas loin.
Stupide.
Ça ne pouvait être qu'américain. 62 fois. Par contre, à la 63e, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous voyez qu'en France, on a quand même de la ressource. On a des gens qui savent faire des choses. À demain.
À demain, Arnaud Demanche. Bonheur de vous retrouver tous les matins en direct à 7h20 et à 8h20. Il est 8h25. Comment tout cela va-t-il se terminer? La question, je la pose dans un instant au gouvernement par la voix de son porte-parole, Olivier Véran, qui sera mon invité sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC, 6h39.
Apolline Matin.